Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Gittin, page 44, Daf Mem Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Vibaitema, et si tu veux, je te dirai une autre réponse. Dans les deux Braithot, il s'agit d'un cas Beshelava Almenat Lemashkeno. Il s'agit d'un cas où ce prêt a eu lieu avec l'intention de prendre un gage, Velo Mishkeno. Et cette saisie donc du gage n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire donc, dans le cas de l'esclave qui a été hypothéqué pour le goy, ce goy devait le saisir parce que le moment du paiement était arrivé. Simplement, il ne l'a pas encore fait. Alors, puisque cette personne a tellement négligé l'interdiction des Chachamim de vendre son esclave au goy, puisqu'il n'a pas payé sa dette, et finalement donc cet esclave doit maintenant appartenir au goy, même s'il ne l'a pas encore pris, il a quand même transgressé cette interdiction des Chachamim et cet esclave est affranchi d'office. Par contre, dans le cas du champ, même si le moment de la saisie de ce champ est arrivé, mais si le Ben Israël ne l'a pas encore fait, ce champ ne lui appartient pas encore. Par conséquent, donc, les fruits de ce champ ne sont pas concernés par le Maaser. Nous avons fini ici le Shiur de Gittin Daf Mem Gimel. Nous commençons le shiur de Gittin Daf Mem Dalet à la seconde ligne du haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent dans la Mishnah qui nous a enseigné l'interdiction des Chachamim de vendre son esclave au goy. S'il l'a fait, celui-ci était affranchi d'office. La Braïta dit là-dessus, Tanu Rabbanan. Nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta, Gevao Bechovo. Si un goy a saisi l'esclave en tant que paiement de sa dette, mais il n'avait pas été hypothéqué volontairement par son maître, O Shelakro Sikrikon. Ou bien si cet esclave a été pris par un brigand en échange de la vie d'Israël dans une situation où la vie des Bnei Israël est bafouée de manière à ce que ce brigand ne puisse pas être attaqué en justice pour avoir menacé ou tué un Ben Israël. Par conséquent donc, il lui a laissé cet esclave sous contrainte sans en avoir le choix. Lo yatsa l'chirut, celui-ci n'est pas été affranchi d'office parce qu'il ne l'a pas vendu volontairement. La Gemara demande, ou bechovolo, et si le goy a pris l'esclave en tant que paiement de sa dette, n'est-il pas déclaré affranchi d'office? Veraminhi, voici qu'il a été enseigné dans une braïta, le contraire. Hare shamsu betameler gorno. Si les fonctionnaires du roi ont forcé un Ben Israël de donner les céréales ou les fruits entreposés dans sa grange, imbechovo, si c'est pour une dette qu'il devait au roi, par exemple des impôts, chayav leaser, il devra auparavant prélever le maaser avant de remettre ses fruits aux fonctionnaires du roi. Im ban perot, mais s'il s'agit d'une fausse accusation, patur milaser, il sera exempté de prélever le maaser avant de remettre les fruits aux fonctionnaires du roi. Nous voyons donc bien que même si ces fruits sont pris sous contrainte, quand même il doit prélever le maaser. Parce que, apparemment, cela est considéré comme s'il l'a donné volontairement au roi. Alors, si c'est comme ça, quand il s'agit d'un esclave, celui-ci devrait être aussi déclaré affranchi d'office. Avec ma réponse, Sha'ani Hatam. Là-bas, concernant la loi du Maaser, c'est différent de Kameshtar Shele. Puisqu'il a une dette envers le roi qu'il doit de toute façon payer, finalement, quand ils prennent ses fruits ou ses céréales, ils gagnent dans l'affaire. Par conséquent, donc, ils ne peuvent pas le faire sur le compte du Maaser, qui ne lui revienne pas. Par contre, dans le cas de l'esclave qui est déclaré affranchi d'office, c'est en fait une amende imposée par les Chachamim. S'il ne l'a pas fait volontairement, mais sous contrainte, les Chachamim ne l'ont pas pénalisé. Tashma. Gmar dit, viens écoute une preuve. De Amar Rav, ce que Rav dit, Hamocher Avdo Lefarhang Oved Kochavim. Celui qui vend son esclave à un fonctionnaire du roi Goy, il s'agit d'un percepteur d'impôts qui a monté une fausse accusation contre ce Ben Israël et il lui a donné cet esclave en échange de l'annulation de ses fausses accusations. Puisqu'il l'a fait volontairement, Yatsa Lechirut, cet esclave est affranchi d'office. Nous voyons donc bien que même s'il le fait ou il a donné son esclave sous contrainte, quand même celui-ci est déclaré affranchi d'office. L'Agma répond, Hatam Havale Lefayes. Là-bas, il aurait dû apaiser ce fonctionnaire avec autre chose, Velopies, et il ne l'a pas fait. C'est pour cela donc que nous considérons que celui-ci a vendu l'esclave volontairement au Goy, et c'est pour cela qu'il est affranchi d'office. Goufa. L'Agma reprend le passage mentionné plus haut. Amarav, Hamocher Abdo le Farhang Oved Kochabim Yatsa le Kherut. Celui qui vend son esclave à un fonctionnaire du roi Goy en échange d'une annulation d'une fausse accusation, celui-ci est affranchi d'office. La Gemara demande, Maï Havel Elevad, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait pas le choix, il l'a fait sans contrainte. La Gemara répond, Havel Elefayes Velopies. Il aurait dû apaiser ce fonctionnaire avec autre chose et il ne l'a pas fait. C'est pour cela donc, nous considérons ce cas comme celui qui vend son esclave volontairement au Goy, celui-ci est donc déclaré affranchi d'office. Baï Rabbi Irmiya. Rabbi Irmiya a posé la question suivante. Machol Shloshim Yom Mahu. S'il a vendu cet esclave simplement pour 30 jours, pas pour toujours. Donc, quelle est la halakha? Est-ce que celui-ci est affranchi d'office ou non? La Gemara répond, Tashma vient coûte une preuve. D'Amar Rav, ce que Rav a dit, Hamocher Avdo le Farhang Oved Kochavim Yatsa le Kherut. Celui qui vend son esclave à un fonctionnaire du roi Goy, en échange d'une annulation d'une fausse accusation, celui-ci est déclaré affranchi d'office. La Gemara comprend à ce stade qu'il s'agit d'un cas où cet esclave a été emmené pour le service du roi pour un certain temps. Mais il reviendra par la suite. Et quand même, nous voyons donc que cet esclave est affranchi d'office. La Gemara répond, Hata befarang hoved kochavim shena chozeret. Là-bas, il s'agit d'un cas où ce goy a emmené cet esclave, mais il ne lui rendra pas. Mais dans le cas où il reviendra par la suite, il est possible que celui-ci n'ait pas affranchi d'office. La Gemara se pose la question suivante. Machro chutz mimlachto mahu. Si cet esclave a été vendu à un goy, mais pas pour le travail, mais par exemple pour avoir des enfants. Celui-ci donc ne transgressera aucune loi de la Torah. La question se pose donc, est-ce qu'il est affranchi d'office ou non? Ou bien, chutz mina mitzvot mahu, s'il a été vendu avec une clause précisant qu'il pourrait accomplir les mitzvot, par exemple qu'il ne travaillerait pas le Shabbat. Quelle est la halakha? Est-ce que ce goy est affranchi d'office ou non? Ou bien, chutz mi shabbatot ve'amim tovim mahu, cet esclave a été vendu avec une clause précisant que le Shabbat et les jours de fête, cet esclave n'est pas vendu. Quelle est la halakha? Est-ce que celui-ci est affranchi d'office ou non? Le ger toshav, ou bien s'il a été vendu à un goy habitant en Eretz Israël qui a accepté de ne pas transgresser les sept mitzvot de Bnei Noach, mais il n'a pas accepté de se convertir. Cependant, puisque ce goy n'est plus idolâtre, il est possible que les chachamim n'ont pas fait de décret à ce sujet. Ou bien l'Israël Mouma. Ou bien si cet esclave a été vendu à un apostat. Mahou, quelle est la halakha? Est-ce que cela sera considéré comme s'il a été vendu à un goy ou non? Le kouti mahou. Si cet esclave a été vendu à un QTA, c'est une peuplade qui s'est convertie sous contrainte et par la suite n'accomplissait pas les mitzvot. Même s'il est considéré comme juif, mais puisqu'il n'accomplissait pas les mitzvot, peut-être cela sera considéré comme s'il l'a vendu à un goy. Mahou, quelle est la halakha? Est-ce que cet esclave est affranchi d'office ou non? La Gemara dit, Pshot miha chada. On pourra trancher l'une de ces questions à partir de la braïta suivante. Ger toshav hareu kovet kochavim. Le goy habitant en Eretz Israël qui a accepté de ne pas transgresser les sept mitzvot des Bnei Noach est quand même considéré comme un goy. Donc celui qui lui vend son esclave est affranchi d'office. Koutiv Israël Moumar, celui qui vend son esclave à un QTA ou bien à un apostat, Amrela Keoved Kochavim, il y a une version qui dit que celui-ci est considéré comme le goy, finalement l'esclave est affranchi d'office, Amrela Ki Israël, et il y a une deuxième version qui dit que ces deux, donc le QTA et l'apostat, sont considérés comme devenus Israël. Par conséquent, celui qui lui vend son esclave, celui-ci n'est pas affranchi d'office. La Gemara continue. Baoumineh me Rabbi Ami. On a posé la question suivante à Rabbi Ami. Eved shehipil atzmo le gayasot. L'esclave qui s'est rendu à une armée de mercenaires. Ve'en rabo yachol leotzi olo binine Israël velo binine ovde kochavim. Et son propriétaire ne peut le libérer et le faire sortir des mains de ses mercenaires, ni par le moyen d'un tribunal de Bnei Israël, ni par le moyen du tribunal des goyim. Maou shehitol damav. Est-ce qu'il a le droit d'accepter sa contre-valeur? C'est-à-dire que si cette armée est prête à payer la contre-valeur de cet esclave, mais ne seront pas prêts à le lâcher. Quelle est la halakha? Est-ce que le fait d'accepter la contre-valeur de cet esclave se sera considéré comme s'il a vendu volontairement son esclave à un goy? Ou bien, puisqu'il n'a pas le choix, il pourra au moins prendre la contre-valeur de cet argent, puisque finalement, il le laisse à cette armée sous contrainte. Amar le Rabbi Irmiya le Rabbi Zrika, Rabbi Irmiya dit Rabbi Zrika, Pouk Ayin Bemchiltach, va approfondir dans les Mishnayot et les Braytot que tu connais pour trouver la réponse à cette question. Nafak Dak Vehashkar, Rabbi Zrika est sorti, il a révisé ses Braytot et ses Mishnayot, et il a trouvé la réponse à cette question de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une Braytah. Hamocher Betol Ovet Kochavim, celui qui vend sa maison à un goy, alors qu'on n'a pas le droit de le faire quand il s'agit d'une maison en Eretz Israël. Cela parce que la Gemara de Avodah Zara interprète le pasouk qui dit l'otochonem, ce qui veut dire ne leur donne pas aux goyim une habitation dans la terre d'Eretz Israël. Dama Vasurim, la contre-valeur de cette maison, donc l'argent qu'il a reçu en échange de sa maison, est interdite. Il n'aura pas le droit d'en tirer profit. Ve'oved kochavim she'anas beto shel Israël. Mais si un goy a forcé un juif à lui laisser sa maison, ve'en ba'alav yichol lo'tzio lo'bedine Israël ve'lo'bedine ovde kochavim, et le propriétaire de cette maison ne peut plus refaire sortir cette maison de ce goy, ni par le moyen d'un tribunal juif, ni par le moyen d'un tribunal goy, mutar litol et damav, il aura le droit de prendre, de recevoir la contre-valeur de cette maison, ve'kotev u'male berkaot shelahem, il aura même le droit de signer les documents concernant cette transaction devant le tribunal des goyim. Et cela, même si cela donne l'importance à ce tribunal. Alors qu'en général, on n'a pas le droit de donner d'importance au tribunal des goyim. Mipne sheu kematzil miyadam. Donc cela, il a le droit de le faire, parce que c'est comme s'il sauvait de leurs mains. C'est-à-dire, puisque la seule chose qu'il a à faire dans ce cas, puisqu'il ne peut pas retrouver sa maison, il ne peut donc que recevoir la contre-valeur, il aura au moins le droit de recevoir cela. On nous pourrons dire la même chose dans le cas de l'esclave qui s'est rendu dans les mains d'une armée de mercenaires. Puisque son maître n'a pas le choix, il va le perdre entièrement, il pourra au moins recevoir sa contre-valeur. La Gemara demande, Vindil Mahanemi le Bayit. Peut-être que ces choses sont dites dans la Braïta, donc ce n'est que dans le cas d'une maison, de Kivan de Losagele Belo Bayit, puisqu'une personne ne peut pas s'en sortir sans maison, Lo Atelezvune, il n'y a pas à craindre qu'il vienne à vendre sa maison. Pour cela, donc, dans le cas où il n'a pas le choix, il pourra au moins recevoir la contre-valeur de sa maison. Aval avda, de sagele belo avda. Mais dans le cas de l'esclave où il peut s'en sortir sans esclave, atelezvune, il pourra même le vendre volontairement. Les chachamim auraient dû être donc plus stricts à ce sujet et de ne pas le laisser recevoir la contre-valeur de cet esclave, holo. Ou bien est-ce que l'on dirait qu'il n'y a pas de différence? Shalach lehu rabbi ami. Rabbi Ami leur a renvoyé la réponse suivante à ceux qui ont posé la question. Mini Ami Barnatan Torah Yotza Lechol Israël. De moi, Ami Barnatan, sortira cet enseignement qui sera diffusé dans tout le clan Israël. Eved Sheipil Atzmo le Gayasot, l'esclave qui s'est rendu entre les mains d'une armée de mercenaires, Ven Rabo Yachol Otio l'Obidine Israël v'l'Obidine Ovde Kochabim, et son maître ne peut pas le faire sortir ni par le moyen d'un tribunal juif, ni par le moyen d'un tribunal goy. Mutar Litol et Damav. Il aura le droit d'accepter la contre-valeur de cet esclave. Vekotev uma ale berkaot shel ovdei kochavim. Il pourra même signer des documents devant le tribunal des goyim. Même si cela donne une importance à cette transaction, mipnei sheu kamatzil miyadam, parce que cela est considéré comme s'il sauve d'entre leurs mains. C'est-à-dire, puisque dans ce cas, il n'a le choix que de recevoir la contre-valeur de cet esclave, il aura le droit de le faire. Ragman continue. Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Hamocher avdo leoved kochavim, celui qui vend son esclave à un goy, konsim oto ad mea bedamav. Les chachamim l'ont pénalisé de le racheter, même s'il doit payer 100 fois son prix. La Gemara demande la question suivante. Davka olav davka. Est-il vrai que les chachamim ont pénalisé le propriétaire de cet esclave de payer même 100 fois le prix de cet esclave, ou bien il s'agissait d'une exagération? Il est vrai qu'il devra payer plus que son prix qu'il l'a vendu, mais pas jusqu'à 100 fois. Ragma répond, Tashma, viens écoute une preuve d'Amar Resh Lakish, parce que Resh Lakish dit concernant une autre loi, Hamocher Behema Gassa le Oved Kochavim, celui qui vend du gros bétail à un goy, alors que les Chachamim l'ont interdit, comme la Gemara l'explique dans Avodah Zara, Daf Tedvav, et cela parce qu'il y a, il risque aussi de vouloir la prêter ou la louer au goy, qui la fera travailler le Shabbat, alors que cette bête qui appartient au Israël n'a pas le droit de travailler le Shabbat, même si nous disons que quand la bête a été prêtée ou louée au Goy, celle-ci lui appartient. Par conséquent, il n'y a pas l'interdiction de la faire travailler le Shabbat, mais il y a quand même la possibilité où cette transaction de la vente se termine juste avant le Shabbat, et pour l'essayer ou montrer au goy que cet animal est obéissante, il risque de la faire avancer au son de sa voix ou en la tirant alors qu'elle porte une charge. Il aura ainsi transgressé l'interdiction de faire avancer un animal chargé le Shabbat. Donc puisqu'il a transgressé l'interdiction de Chachamim de vendre du gros bétail à un goy, Resh Lakish a dit « Konsin oto ad asara bedamea ». On pénalise le vendeur de la racheter même à 10 fois son prix. En tout cas, nous voyons d'ici que celui qui a transgressé une interdiction de Chachamim concernant la vente d'un animal ou d'un objet, il devra le racheter pour 10 fois son prix. Et non pas comme Rabbi Yehoshua ben Levi l'a dit, de payer 100 fois son prix. Apparemment donc, il s'agit d'une exagération et qu'il devra seulement débourser 10 fois le prix de cet animal. Alors la Gemara répond, réfute, ce n'est pas une preuve. Dilma Shani Eved, peut-être que concernant l'esclave, c'est différent de Kol Yoma Veyoma Mafkalem et Mitzvot, parce que tous les jours où il se trouve chez ce goy, finalement, il est empêché d'accomplir les Mitzvot, et peut-être pour cela, il a été pénalisé de le racheter même à 100 fois son prix. Et finalement donc, ce que Rabbi Yehoshua ben Levi, il ne l'a pas dit en exagération, mais sérieusement. Deika de Amre, il y a une deuxième version qui ramène cet enseignement. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Hamocher Abdol Oved Kochavim, celui qui vend son esclave à un goy, comme Sinoto Ad Asara Benamav, les Chachamim l'ont pénalisé de le racheter jusqu'à 10 fois son prix. Alors nous nous posons la question, Davka o Lav Davka. Est-ce que concernant cette pénalisation des Chachamim, est-ce que la somme du rachat de cet esclave a été fixée seulement à 10 fois son prix? Ou bien, ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, que même jusqu'à 10 fois son prix, mais en fait, même s'il demande plus, il devra aussi le payer. La Gemara répond, Tashma, bien écoute une preuve, Yamar Resh Lakish, Hamocher Bema Gassal Oved Kochavim, celui qui vend du gros bétail à un goy, alors que, comme nous l'avons expliqué plus haut, les Chachamim l'ont interdit, Konsinoto Ad Mea Bedamea. Les Chachamim l'ont pénalisé de payer même jusqu'à 100 fois son prix pour la racheter. Donc nous voyons que cette amende des Chachamim n'a pas été fixée seulement à 10 fois le prix de l'objet dont la vente a été interdite, mais même jusqu'à 100 fois. La Gemara réfute en disant « Shani Eved de Lohadarle ». Peut-être que les Chachamim ont été moins stricts concernant l'esclave qui a été vendu au goy, parce que celui-ci ne retournera pas chez son maître. En effet, il est vrai que son maître doit le racheter, mais comme nous l'avons dit plus haut dans la Mishnah, celui-ci est affranchi d'office. C'est pour cela donc que les Chachamim n'ont pas été si stricts, et ils ont simplement demandé qu'il paye jusqu'à 10 fois son prix. Alors que concernant l'animal qui reviendra chez son propriétaire, celui-ci devra débourser même jusqu'à 100 fois son prix. La Gemara demande, « Ela behema tamamai mishum dehadrale » à la raison pour laquelle les Chachamim ont été plus stricts concernant l'animal qui a été vendu au goy, c'est parce que cet animal retournera à son propriétaire. L'Ikneset Fechad, les Chachamim n'avaient qu'à le pénaliser de payer une fois de plus que les 10 fois que les Chachamim ont pénalisé le vendeur de l'esclave au goy. Parce que finalement, la seule différence entre l'esclave et l'animal, c'est que cet animal revient chez son propriétaire. On devrait donc simplement ajouter une fois de plus sur cette amende. Et là, c'est pourquoi la Gemara dit, la raison pour laquelle les Chachamim auraient été moins stricts concernant la vente de l'esclave, parce que Eved Milta de l'Oshricha, la vente d'un esclave à un goy, est une chose rare. Et cela parce que l'interdiction de le vendre est une chose logique, étant donné que l'esclave est considéré comme étant partiellement juif, il est concerné par certaines mitzvot, notamment les commandements négatifs. Par conséquent, il est rare qu'une personne ait l'idée de vendre l'esclave à un goy. Umilta de l'Oshricha, l'Ogazrebera Banan, et concernant une chose rare, les Chachamim n'ont pas fait de décret. Alors même s'ils ont pénalisé le vendeur, mais il se peut qu'il n'ait pas été aussi strict, ils l'ont simplement pénalisé de payer 10 fois son prix. Par contre, concernant l'animal qui n'a aucune mitzvah à accomplir, l'interdiction de le vendre n'est pas d'une logique évidente. C'est pour cela que les Chachamim aurait été plus strict et aurait pénalisé le vendeur à payer même jusqu'à 100 fois son prix. Finalement donc, on ne pourra pas comparer la pénalisation des Chachamim concernant la vente de l'esclave, on ne pourra pas le déduire de la pénalisation des Chachamim concernant la vente d'un animal au goy. Ba'emine Rabbi Yirmiya mi Rabbi Asi, Machar Avdo, celui qui aurait vendu son esclave. Nous avons dit plus haut que les Chachamim ont pénalisé le vendeur de le racheter, même s'il doit payer plusieurs fois son prix, ou mettre, et le vendeur est mort. Mahou Sheikh Nesouet Beno Acharav, est-ce qu'ils ont pénalisé aussi le fils de ce vendeur, après lui de le racheter, donc au même prix, et de payer plusieurs fois le prix de cet esclave pour le racheter, ou non? Im Timtse Lomar, si tu veux dire que, concernant le Bechor, qui est le premier-né animal, celui-ci doit être donné au Kohen pour être offert en tant que Korban. Cependant, si ce Bechor était infirme, le Kohen pouvait le consommer sans l'offrir en tant que Korban. D'ailleurs, comme la Gemara dans Mechorot l'explique, les Kohanim étaient soupçonnés de blesser délibérément le Bechor pour pouvoir le consommer sans devoir l'offrir en tant que Korban. Alors si tu nous dis concernant la question qu'on s'est posée à ce sujet, Tsaram Ozen Bechor, le Kohen qui aurait fendu l'oreille d'un Bechor, d'un premier-né animal, qui serait donc devenu infirme. Il a, par ce fait, transgressé une interdiction de la Torah de blesser et de rendre infirme un korban. Les Chachamim ont dit à ce sujet que le Kohen ne pourra plus jamais faire la shrita de ce Bechor, même s'il était atteint d'une autre infirmité par la suite. Oumet. Et puis, cette personne, ce Kohen, est mort. Alors, la question que nous nous sommes posée à ce sujet, Kansou Beno Acharav, est-ce que les Chachamim ont pénalisé son fils après lui aussi de ne pas pouvoir faire la shrita de ce Bechor, même s'il était atteint d'une autre infirmité par la suite, ou non? Alors, il est vrai que si nous tranchons cette question en disant que les Chachamim n'ont pas pénalisé le fils de ce Kohen, alors que ce Kohen avait transgressé une interdiction minatora, nous dirons qu'ici aussi, les Chachamim n'auront pas pénalisé le fils de celui qui a vendu l'esclave au Goy. Mais si nous tranchons cette question en disant que les Chachamim ont pénalisé le fils de ce Kohen, de ne pas pouvoir faire la shrita de ce Bechor, peut-être que Mishum Deisura Doraitahi, peut-être que la raison pour laquelle les Chachamim ont été si stricts, parce que le Kohen a transgressé une interdiction minatora de blesser le Bechor. Aval Hacha, mais dans notre cas de la vente de l'esclave, Isura de Rabbanan, il s'agit d'une interdiction des Chachamim. Peut-être que nous dirons que les Chachamim n'ont pas été si stricts à ce sujet et n'auront donc pas pénalisé l'enfant de celui qui a vendu l'esclave au Goy.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Memdalet Amoud Bet. Ve'im Timtse Lomar, et si tu veux me dire concernant les lois des travaux, le Chol HaMoed. Les Chachamim ont interdit de faire des travaux pendant Chol HaMoed, à part s'il s'agit d'une grande perte ou si ce travail n'était pas effectué. Cependant, les Chachamim ont dit que celui qui programme son travail de manière à ce que celui-ci débute avant la fête, ainsi il se trouve dans une situation où s'il ne continue pas ce travail, il aura une grande perte. Les Chachamim ont interdit d'effectuer ce travail pendant Chol HaMoed. Et cela parce qu'il l'a programmé de manière à transgresser le Chol HaMoed. Alors qu'il pouvait faire son travail longtemps avant Chol HaMoed, ou bien attendre que la fête passe pour effectuer ce travail. Maintenant, nous nous sommes posé la question suivante. Est-ce que celui qui a programmé son travail de manière à ce qu'il devienne indispensable pendant Chol HaMoed, et puis cette personne est morte, est-ce que les Chachamim ont pénalisé son fils aussi? Ils ont interdit ce travail même si cette personne est morte. Alors si nous disons que les Chachamim ont pénalisé son fils dans ce cas, même s'il s'agit d'une interdiction de Rabbanan, nous pourrons déduire de là donc que dans le cas de celui qui a vendu l'esclave au Goy, les Chachamim ont aussi pénalisé le fils. Mais si tu veux me dire que Kiven Melach Toba Moed, celui qui programme son travail de manière à ce qu'il devienne indispensable pendant Chol HaMoed, ou met, et cette personne est morte, Lokansu Beno Acharav, les Chachamim n'ont pas pénalisé son fils après lui, et par conséquent donc, son fils peut effectuer ce travail. Peut-être, nous pourrons dire que la raison pour laquelle les Chachamim n'ont pas été si stricts à ce sujet, Mishum de la Avadissura, c'est parce que finalement, le père n'a pas transgressé d'interdiction, puisqu'il lui-même n'a pas travaillé pendant Chol HaMoed. Il a simplement programmé ce travail de manière à ce qu'il soit effectué pendant Chol HaMoed. Mais dans le cas, Hacha, dans le cas où le père a transgressé l'interdiction de vendre l'esclave au Goy, Mai, nous pouvons nous poser la question, quelle sera la halakha? Est-ce que l'édité Kansou Rabbanan, est-ce que les Chachamim ont pénalisé simplement le vendeur Vehalete et ce vendeur n'existe plus puisqu'il est mort? Son fils ne sera donc pas pénalisé, n'aura pas l'obligation de racheter cet esclave en payant plusieurs fois son prix, Odilma, ou bien ce que les Chachamim ont dit, les Mamoneh, Kansou, Rabbanan et les Chachamim ont pénalisé la fortune de ce vendeur, Vehaïté. Finalement, la fortune de ce vendeur existe encore, et c'est de sa fortune que sera prélevé le montant nécessaire pour le rachat de l'esclave. À Marlé, Rabbi Assi a répondu à Rabbi Irmia, Tanitua, nous avons trouvé la réponse dans une Mishnah d'Anshvit, Perek Dalet. Il s'agit de l'interdiction de travailler la terre pendant la septième année, qui est l'année de la Shemitah. Il y a certains travaux qui ont été interdits par les Chachamim. Alors la Mishnah dit, Sadeh shenit kavta beshvi'it, un champ qui aurait été débarrassé de ses ronces pendant l'année de la Shemitah, bien que les Chachamim aient interdit ce genre de travail pendant la Shemitah. Il s'agit, comme Rashi le précise dans Bechorot Lamed Dalet Amud Bet, d'un champ où les ronces avaient déjà été coupées avant la rentrée de la Shemitah. Bien qu'il a transgressé l'interdiction des Chachamim, Tizara le Motsa Eshvit, ce champ pourra être semé dès la sortie de la septième année. Nous ne dirons pas qu'il profite ici d'un travail de la Shemitah. Les Chachamim ne l'ont pas pénalisé. Par contre, ni Taïva, si ce champ a été fertilisé pendant l'année de la Shemitah en y apportant des engrais. Ou ni Daïra, ou bien si des animaux auraient été parqués dans ce champ pour pouvoir fertiliser ce champ par le moyen des excréments de ces animaux. L'otizara le motsa eshvit, puisqu'il a transgressé une interdiction des Chachamim de faire ce genre de travail pendant la Shemitah, il ne pourra pas semer le champ à la sortie de la Shemitah. Et cela parce qu'il s'agit d'un mépris plus important d'une interdiction des Chachamim. Cependant, bien qu'il y ait des raisons pour être plus strict concernant celui qui a transgressé les lois de la Shemitah, et cela parce que les gens ont tendance à transgresser les lois de la Shemitah. Quand même, Ve'amar Rabbi Yossi Berabbi Chanina Lakitinan, la loi a été fixée, Hetiva Umet, celui qui aurait fertilisé son champ et il est mort, Benozora, son fils, peut semer ce champ à la sortie de la Shemitah. Alma, nous pouvons donc déduire de là, les Dideh Kamsu Rabbanan, les Chachamim ont pénalisé celui qui a transgressé une loi, les Breh Lo Kamsu Rabbanan. Par contre, les Chachamim n'ont pas pénalisé son fils. Nous dirons donc aussi que concernant celui qui a vendu l'esclave à un goy, les Chachamim ont pénalisé le vendeur et non pas son fils de le racheter pour plus que son prix. Amar Abaye. Abaye a dit, Naketinan, la loi a été fixée. Time Taharot Shel Chavero, celui qui a rendu impur des fruits appartenant à son collègue, Umet, et puis cette personne est morte. Lokansu Rabbanan Beno Acharav, les Chachamim n'ont pas pénalisé le fils de cette personne de rembourser les dégâts. Maitama, pourquoi? Hezek shenon ikar, lo shume hezek. Un dégât qui n'est pas visible n'est pas considéré un dégât. Par conséquent, Minatora, cette personne ne devait pas rembourser les dégâts. Ou knasa de rabananhi, c'est simplement les Chachamim qui ont pénalisé celui qui rend impur les fruits de son collègue de le dédommager. C'est pour cela, les didés, kansu rabanan, les Chachamim ont pénalisé la personne qui a fait les dégâts, les bré, loka kansu rabanan. Par contre, les Chachamim n'ont pas pénalisé son fils. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Oh, le chutzal haaretz, celui qui vend son esclave même à un Yisraël qui habite à l'étranger, celui-ci est affranchi d'office. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Hamocher avdo le chutzal haaretz, celui qui vend son esclave à un Yisraël qui habite à l'étranger, en dehors d'Eretz Israël, Yatsa lecherut, celui-ci est affranchi d'office, vetzarich get shichrur merabosheni. Cependant, cet esclave a besoin d'un titre d'affranchissement de son second propriétaire pour pouvoir avoir la permission de se marier avec une bat Israël. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Pamim Yatsa ou Pamim le Yatsa. Il y a des fois des situations où cet esclave est affranchi parce qu'il a été vendu à une personne habitant à l'étranger et il y a des situations où cet esclave n'est pas affranchi. Ketsad, comment appliquons-nous ces lois? Alors la Braïta précise, Amar Ploni Avdi, si le vendeur dit, voici un tel mon esclave, Mechartiou le Ploni Antouchi, je l'ai vendu à telle personne de la ville de Antouchi, qui est une ville de l'étranger en dehors d'Eretz Israël, Loyatsa, l'esclave n'est pas affranchi.
En effet, nous pouvons interpréter ces paroles comme voulant dire qu'il a vendu cet esclave à une personne originaire de la ville d'Antouchi, mais en fait, cette personne habite en Eretz Israël. Par contre, s'il dit « l'Antouchi chez Bantouchia », s'il dit « je l'ai vendu à une personne originaire de la ville d'Antouchi qui habite dans la ville de Antouchia », Yatsa, cet esclave, est affranchi d'office. Parce que, de cette manière, il dit que cet esclave a été vendu à une personne qui habite à l'étranger. Alors, Gemara demande, Vatania, voici qu'il a été enseigné dans une braïta, Mecharti ou Leantouchi, Yatsa. S'il dit, je l'ai vendu à une personne originaire de la ville de Antouchia, celui-ci est affranchi d'office. Leantouchi, Hacharoui, Beloud, Lo Yatsa. Mais s'il dit, je l'ai vendu à une personne originaire de la ville de Antouchia qui habite à Loud, l'esclave n'est pas affranchi d'office. Nous voyons donc dans cette braïta que ce n'est que dans le cas où nous savons que cette personne originaire de l'étranger habite en Eretz Israël que l'esclave n'est pas affranchi d'office. La Gemara répond, la kashia, il n'y a pas de contradiction. Ha deitla uitleh beta beretz Israël. Dans la première braïta, il s'agit d'un cas où cette personne originaire de la ville d'Antouchia a une maison en Eretz Israël. Pour cela, nous pouvons dire que cette personne a l'intention de rester en Eretz Israël. Donc tant que le propriétaire ne déclare pas qu'il l'a vendu dans l'intention que celui-ci quitte la terre d'Eretz Israël, celui-ci n'est pas affranchi d'office. Ha deitleh ushpiza b'Eretz Israël. Dans la seconde braïta, il s'agit d'un cas où cette personne originaire de la ville d'Antouchia n'a pas de maison fixe en Eretz Israël, mais il a une auberge où il a l'habitude de résider quand il vient en Eretz Israël. Dans ce cas, c'est seulement s'il dit qu'il l'a vendu à une personne originaire de Antouchia qui réside dans la ville de Loud, donc en Eretz Israël, que celui-ci n'est pas affranchi d'office, mais sinon, nous estimons qu'il l'a vendu pour qu'il le sorte à l'étranger. Par conséquent, donc, il est affranchi d'office. Ba'e Rabbi Irmiya s'est posé la question suivante. Ben Bavel Shenasa Isha Beret Israël, une personne originaire de Bavel, qui s'est mariée avec une femme d'Eret Israël, Ve'ichnisalo Avadim Ushfachot, et elle lui a donné en dot des esclaves et des servantes, Vedato Larzor, et cette personne a l'intention de retourner dans son pays d'origine en emmenant sa femme et ses esclaves. Mahu, quelle est l'alakha? Est-ce que nous considérons que cette femme a vendu ses esclaves à une personne habitant à l'étranger? Par conséquent, ses esclaves sont affranchis d'office ou non? La question se pose parce que les objets de la dot appartiennent au mari. Il peut s'en servir comme il veut. Cependant, dans le cas du paiement de la ktouva, par exemple dans le cas d'un divorce éventuel ou si cette femme devient veuve, le mari devra rembourser la valeur intégrale de ces objets en fonction de leur valeur au moment du mariage. Cependant, dans la Gemara de Yevamot d'Afsamer Bavamulbet, il existe une discussion à savoir est-ce que le mari peut simplement rembourser la valeur de ces objets même s'ils existent encore, ou bien est-ce que la femme peut réclamer ces objets sous prétexte qu'ils font partie du patrimoine de ses parents. Alors la Gemara précise, Tibae le mande amar hadinima, on peut se poser cette question selon l'avis qui pense que la femme aura raison si elle réclame que ces objets lui reviennent et non pas leur valeur. Tibae le mande amar hadinimo, on peut se poser la question aussi selon l'avis qui dit que c'est le mari qui aura raison et s'il veut simplement payer la valeur de ces objets sans les rendre à la femme, celui-ci aura raison. La Gemara précise, Tiba Eleman de Amar Hadinima, on peut se poser la question selon celui qui dit que c'est la femme qui a raison si elle réclame les objets et non leur valeur. Parce que d'une part, nous pouvons dire qu'Ivan de Hadinima, puisque c'est elle qui a raison quand elle réclame les objets de sa dot, Kedida Damu, ces objets donc, ces esclaves lui appartiennent. On ne considérera pas donc qu'elle les a vendus à son mari, mais qu'ils l'ont accompagnée quand elle a quitté la terre d'Eretz Israël. Dans ce cas, ils ne sont pas affranchis d'office. Odilma, ou bien Kivan de Meshab Dele, les paiera, puisqu'ils sont assujettis au mari, et c'est le mari qui doit le servir. Kedide Damu, nous considérons que ces esclaves appartiennent au mari jusqu'au moment d'un divorce ou d'un veuvage éventuel. Par conséquent, donc, nous considérons que cette femme a vendu ses esclaves au mari. Ils seront donc affranchis d'office. Bitibae le mande amar hadinimo. Nous pouvons nous poser la question aussi, selon l'avis qui dit que c'est le mari qui aura raison s'il ne veut pas rendre les objets et simplement payer leur valeur. Pourquoi? Parce que d'une part, nous pouvons dire qu'Ivan de hadinimo, qu'Edide damu. puisque c'est lui qui a raison et c'est lui qui pourra garder les objets s'il le veut, nous considérons ces esclaves comme lui appartenant. Ils seront donc affranchis d'office. Nous considérons que la femme lui a vendu ses esclaves au Dilma, ou bien nous dirons qu'il vint de l'Okanele les gouffer, puisque le mari n'a pas encore acquis entièrement la personne de ses esclaves. Et cela parce que ceux-ci sont assujettis au remboursement de la ktouva ou de la dot, même si le mari peut les garder s'il veut les payer, mais il peut aussi décider de les rendre et de ne pas les payer, voire le rachba. Alors, Kedidar Damou, nous considérons que ces esclaves appartiennent encore à cette femme, et nous dirons donc qu'elle ne les a pas vendus. L'Agmara conclut, Tekou, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu Hanavi répondra. L'Agmara continue, Amar Rabbi Abaou, Shanali Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan m'a enseigné, Evet Shiatza Harabo le Surya, l'esclave qui a suivi son maître quand il a quitté la terre d'Eretz Israël pour le pays de Surya, qui est considéré comme l'étranger, concernant cette loi qui interdit de vendre les esclaves à l'extérieur d'Eretz Israël, ou Machrosham Rabo, et son maître l'a vendu là-bas à quelqu'un qui réside dans ce pays, Yatsa Lecherut, cet esclave est affranchi d'office. La Gemara demande à Tani Rabbi Chia, voici que Rabbi Chia enseigné dans une braïta, Ibeded Zchuto, une fois que l'esclave a suivi son maître à l'étranger, il a perdu le droit de réclamation, et son maître peut le vendre là-bas, il ne sera pas affranchi d'office. La Gemara répond, la Kashia, il n'y a pas de contradiction. Kan Shedat Rabo Larzor, le cas enseigné par Rabbi Yochanan, il s'agit d'un cas où, quand le maître de cet esclave a quitté la terre d'Eretz Israël, celui-ci avait l'intention de retourner en Eretz Israël. Donc quand l'esclave l'a suivi, il l'a fait dans l'intention de revenir avec son maître. Par conséquent donc, si son maître le vend à une personne qui réside à l'étranger, celui-ci est affranchi d'office parce qu'à ce moment, son maître le force à rester à l'étranger. Kan She'en Dad Rabo Larzor. Par contre, l'enseignement de Rabbi Chia, il s'agit d'un cas où le maître qui a quitté la terre d'Eretz Israël l'a fait sans l'intention de revenir en Eretz Israël, puisque l'esclave l'a suivi. Il a donc montré que ça ne le dérangeait pas d'habiter à l'extérieur d'Eretz Israël. Il ne pourra donc plus faire de réclamation, même si son maître le vend à quelqu'un d'autre qui habite là-bas. Ve'atania, effectivement, nous avons enseigné dans une braïta. Yotze ha'eved achar rabo le surya. Braïta nous dit, l'esclave peut suivre son maître quand il quitte la terre d'Eretz Israël pour le pays de surya. Alagmara demande, Yotze, est-ce que l'esclave est tenu de suivre son maître, l'osagi de l'onafik? N'a-t-il pas de choix que de suivre son maître quand il quitte la terre d'Eretz Israël? Vatnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah, dans Ktuvot Daf Kufiud Amud Bet, Ve'en Hakol Motzin, et personne ne peut forcer son entourage à le suivre s'il quitte la terre d'Eretz Israël. Il ne peut donc ni forcer sa femme ni son esclave à le suivre. Donc, que veut dire cette Braïta? Et là, c'est pour cela que la Gemara dit, c'est cela que la Braïta a voulu dire. Yatsa ha'eved achar rabo le surya. Si l'esclave a suivi son maître quand il a quitté la terre d'Eretz Israël pour aller en pays de Souria, où Machro Rabosham et son maître l'a vendu là-bas, Imdat Rabo Larzor, si son maître avait l'intention de revenir en Eretz Israël quand il a quitté ce pays, Kofim Oto, on forcera son second maître de le libérer, et cela parce que cet esclave est affranchi d'office. Ve'imendat Rabo Larzor, par contre, si son maître n'avait pas l'intention de revenir en Eretz Israël quand il a quitté cette terre, en kofinoto, on ne forcera pas son second maître de le libérer, et cela, puisque l'esclave a suivi son maître de son propre chef quand il a quitté la terre d'Eretz Israël alors qu'il ne voulait pas y revenir, il n'a plus le droit de réclamation et il ne sera pas affranchi d'office si son maître le vend là-bas. Amar Rav Anan, Shamit Minet Mar Shmuel, j'ai entendu de la bouche de Shmuel tarter deux enseignements. Khadahar, le premier enseignement, c'est concernant celui qui vend son esclave à quelqu'un qui habite à l'extérieur d'Eretz Israël, Ve'idar, et la seconde loi, Ve'itmar, c'est concernant ce qui a été enseigné par ailleurs, à propos des lois du Yovel, comme la Torah nous l'enseigne dans Parashat Beha. En effet, au moment où le Yovel existait, c'était la 50e année après 7 années de Shemitah, donc 7 fois 7 ans, tous les champs qui ont été vendus devaient retourner à leur propriétaire, leur premier propriétaire. Alors là-dessus, il a été enseigné une discussion. Hamocher Sadeu Bishnat Hayovel Atzma, celui qui vend son champ pendant l'année du Yovel. Rav Amar Mechura Veyotza, Rav dit que l'acte d'acquisition a pris effet seulement, le champ retourne à son premier propriétaire. Cependant, si l'acheteur a voulu acheter d'autres objets en même temps, dès qu'il a fait l'acte d'acquisition sur ce champ, il a acquis les autres objets. Alors même si le champ retourne à son propriétaire, les autres objets appartiennent à l'acheteur. Il n'a pas besoin de faire un autre acte d'acquisition. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Enam Khura Kolikar, ce champ n'a pas du tout été vendu. L'acte d'acquisition n'a pas pris effet. Et cela, puisque la Torah nous enseigne que les champs retournent à leur premier propriétaire pendant l'année du Yovel, il n'y a pas d'acte d'acquisition qui soit valable pendant cette année. En tout cas donc, à propos de ces deux lois concernant celui qui vend son champ pendant l'année du Yovel et concernant celui qui vend son esclave à une personne habitant à l'étranger, dans les deux cas, la vente est annulée. Bechada hadrezvine. Alors, Ravanan dit que concernant l'une de ces lois, Shmuel a dit que le vendeur devait rendre l'argent qu'il a reçu pour cet achat. Ou Bechada lohadrezvine. Et concernant la seconde loi, Shmuel a dit que le vendeur ne devait pas rendre l'argent qu'il a reçu pour cet achat. Nous considérons que l'acheteur, sachant que cette vente était interdite, il a voulu faire cadeau de cet argent au vendeur. Veloyadana heminayu, et je ne sais pas concernant laquelle des lois l'argent sera retourné à l'acheteur, et concernant laquelle des lois l'argent ne sera pas retourné à l'acheteur. Amar Rav Yosef a dit là-dessus, Nerzeanan, nous n'avons qu'à voir nous-mêmes. Midetane bibraita, puisqu'il a été enseigné dans une braïta, Hamocher Abdo le Chutzlaret, celui qui vend son esclave à une personne habitant à l'étranger, Yatsa le Cherut, celui-ci est affranchi d'office, Betsarich Get Shichur Merabosheni. Et cet esclave aura besoin d'un titre d'affranchissement de son second propriétaire, Shmamina. Nous pouvons donc déduire de là, Kanye Rabosheni, que son second maître l'a acquis, puisque c'est lui qui devra lui écrire un titre d'affranchissement, par conséquent donc, Velo Hadresvine. Puisque l'acte d'acquisition était valable, nous dirons donc que l'argent ne reviendra pas à l'acheteur. Vechi Amar Shmuel Hatam Ena Mechura, et nous dirons de là, puisque concernant l'une des lois, Shmuel a dit que l'argent ne revenait pas à l'acheteur. Il l'a dit concernant le champ qui a été vendu pendant l'année du Yovel où l'acte d'acquisition n'était pas valable, ou Maot Rozrim, et l'argent retournera à l'acheteur.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.